Bonjour. Bonjour Mustapha.
Bonjour Anne.
Aujourd'hui, on va aborder un podcast concernant, enfin qui s'adresse plutôt aux grands-parents, parce que je pense que tu es d'accord avec moi. On constate beaucoup que les grands-parents, au début à la découverte de la maladie, sont un peu mis de côté.
Oui, tout à fait.
Sont un peu les oubliés entre guillemets de la prise en charge et de l'éducation. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est pas facile pour eux de se rendre disponible au chevet de l'enfant et du coup de bénéficier des conseils.
Tout à fait. Et puis avec le Covid, on limitait les
aussi les visites,
donc on pouvait pas multiplier à chaque séance d'éducation.
Et ensuite, les parents, quand ils rentrent à la maison, ils ont tellement envie de gérer les choses que finalement...
Ils laissent peu de place eux-mêmes.
Ils laissent plus personne s'approcher, exactement. Donc l'idée de ce podcast, c'est de s'adresser un peu aux grands-parents, de répondre à leurs éventuelles questions. Surtout que certains enfants ont l'habitude d'aller chez leurs grands-parents, de passer des nuits, des semaines, des week-ends, et savoir un peu comment on peut... comment les grands-parents peuvent s'adapter, organiser tout ça, et faire en sorte que, de passer de bons moments, tout
bien
simplement.
Sûr.
Donc, est-ce que tu peux nous dire, déjà, on va commencer peut-être par quelques règles de sécurité. Qu'est-ce que, en tant que grand-parent, à quoi je dois faire attention pour mon petit enfant ou ma petite fille ?
Alors, effectivement, comme tu le dis, c'est beaucoup une question de psychologie et de réassurance. Donc, effectivement, d'aborder tout de suite les questions de sécurité, c'est une très bonne chose parce que souvent, ils ne vont pas voir leurs grands-parents parce que les grands-parents ont peur.
Les enfants,
eux, ont envie d'y retourner.
Ou les parents ont peur de confier leur enfant dans les deux sens.
En tout cas, effectivement, sauf conditions extrêmes, si les parents étaient capables de les accueillir avant, ils doivent être capables de les accueillir après le diagnostic de diabète.
D'accord.
Simplement, il faut passer par une petite phase de formation et rendre accessible, non pas les noyer d'informations, mais rendre accessible les informations utiles de qu'est-ce qui peut arriver quand l'enfant est chez eux. Et sachant qu'il ne peut pas arriver 50 000 choses.
Alors, je me permets une petite parenthèse. Sachant que là, on va s'adresser aux grands-parents, il ne faut pas qu'ils hésitent à aller fouiller sur le site, sur les différents podcasts qu'on
a.
Au cas où ils ont une question auxquelles on n'a pas répondu, ils trouveront une réponse et ils pourront se renseigner un peu plus et prendre un peu plus ces choses en main, entre guillemets.
Tout à fait. On sait bien qu'il y a beaucoup de littérature sur comment gérer un diabète, bien sûr, mais le format podcast se prête bien à quelqu'un qui aurait du mal avec la lecture ou l'écriture, mais qui aurait plus d'aisance avec une compréhension orale, quoi. Donc c'est vraiment effectivement très adapté à ces populations.
D'accord. Donc excuse-moi. Donc tu disais pour les situations d'urgence.
Les situations d'urgence, en gros, globalement, il y en a deux. Il y a l'hypo et l'hyper.
D'accord.
Donc commençons par l'hypo. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu dans le podcast sur l'hypo, mais globalement, on resucre un enfant avec la dose de sucre qui lui est adaptée à son poids, quand la glycémie est inférieure à 80, avec une flèche de tendance vers le bas, ou inférieure à 70.
D'accord.
Donc les flèches de tendance, c'est sur les capteurs, les flash monitoring, c'est-à-dire ce qu'il y a sur le bras, et qui indique la glycémie directement au moyen d'un chiffre, qui va de 80, 70 jusqu'à 180, 200, voire plus.
D'accord.
Donc, les chiffres normaux, c'est 70 ou 80, 180.
D'accord, donc un palier assez large.
C'est ça. Donc, et en dessous de 70 ou en dessous de 80 avec une flèche qui descend, on parle d'hypoglycémie. Et au-dessus de 180, on parle d'hyperglycémie. Donc, ce qui peut arriver chez un grand-parent qui garde son petit-enfant, c'est en premier lieu l'hypoglycémie, tout en sachant que ce n'est pas qu'une histoire de chiffres. Il y a aussi toute une clinique qui accompagne cette hypoglycémie. Ça peut être des douleurs de ventre avec une sensation de faim impérieuse, ça peut être des tremblements, ça peut être une sensation de malaise, de vertige, un enfant qui ne va pas bien. Mais ça, c'est important qu'il demande aux parents comment se manifeste l'hypoglycémie chez notre petit-enfant, et la mère ou le père répondra très précisément en disant quand il fait une hypoglycémie, il est comme ci ou comme ça. Et en général, c'est les mêmes signes.
Mais comment je sais qu'il est en hypoglycémie ?
Alors justement, c'est les mêmes signes qui vont se répéter et le flash monitoring qui oriente le diagnostic. C'est-à-dire que si on a un flash monitoring, c'est-à-dire un capteur qui montre une glycémie inférieure à 70 ou inférieure à 80 avec la flèche qui descend, c'est une hypoglycémie, il faut resucrer.
Mais parfois, je ne vais pas le flasher toutes les heures, toutes les 5 minutes.
Non, il faut le flasher que quand il ne va pas bien.
D'accord.
Quand il vous dit qu'il ne va pas bien. Ou 3 à 4 fois par jour, avant, après les repas.
Ça suffit.
Exactement, c'est pas la peine de flasher tout le temps. D'accord. On flash avant, après les repas, de préférence, pour savoir ce qu'il en est, c'est-à-dire 3 à 4 fois par jour, et quand il va pas bien. Mais d'accord, hors de question de flasher tout le temps, hors de question de se réveiller la nuit pour flasher, non.
D'accord. Donc ça, c'est la première situation. La deuxième ?
La deuxième, c'est l'hyperglycémie. L'hyperglycémie, il y a plusieurs niveaux d'hyperglycémie. Quand on est à 180, on s'en fiche un peu, c'est pas grave, c'est une hyperglycémie qui n'est pas tout à fait normale d'avoir, bien sûr, mais si c'est un séjour chez les grands-parents, on peut tout à fait tolérer ça, et on ne peut pas avoir un niveau d'exigence extrêmement élevé, autrement on perd en qualité de vie. Et l'idée, c'est qu'on va s'occuper que des hyperglycémies qui sont au-delà de 250. Donc au-delà de 250, il est conseillé de piquer au doigt, de savoir réaliser un dextro, donc de faire la glycémie et confirmer qu'elle est bien à plus de 250, et en même temps, sur la même goutte, de faire un dosage de ce qu'on appelle la cétone, donc là, plus loin, cétone, qui permet de vérifier...
La bandelette violette.
La bandelette violette, tout à fait, qui permet de vérifier si l'enfant a besoin ou non d'insuline. Et si cette valeur de cétone est inférieure à 0,5, on considère qu'elle est négative. Si elle est supérieure à 0,5, on considère qu'elle est positive et que là, il faut injecter de l'insuline. Alors, combien on injecte d'insuline ? Et bien là, il faut suivre le protocole que les parents donneront. En général, c'est 10% de la dose totale. Et on contrôle la cétone une heure après. Et si elle est encore supérieure à 0,5, on injecte 5% de la dose totale. Et normalement, elle doit pouvoir...
De toute façon, il y a toujours un protocole.
Exactement. On suit le protocole. Donc, hypo, hyper, ça, c'est les deux situations, entre guillemets, sérieuses qui peuvent arriver, sachant qu'elles se produisent assez rarement, parce que la plupart des hyperglycémies, quand l'enfant est bien équilibré le reste du temps, il n'y a pas de raison qu'il soit déséquilibré quand il est chez papy, mamie, et combien même il le serait. On applique les règles qu'on vient d'énoncer et les choses se passent bien. Bien sûr, coup de téléphone aux parents pour pouvoir vérifier et s'assurer qu'on interprète bien les chiffres.
Si je comprends bien, les règles d'or, c'est communication,
en quelque sorte. Communiquer, au début, on communique un peu plus, forcément, pour voir si on fait bien,
ce qu'on apprend.
Et puis après, les week-ends d'après ou les séjours d'après, il n'y a plus de problème.
Il n'y a pas de danger vital à prendre petit-fils à la maison.
Le danger, c'est de ne pas le prendre, justement. D'accord. Le danger, c'est de ne pas le prendre parce qu'il y a une sensation de stigmatisation, d'ostracisation que l'enfant ressent et qui est absolument délétère pour son développement et pour le bien-être de sa famille, tout simplement.
Surtout si les frères et sœurs partent et que lui reste.
Ah oui, là, c'est le pire, c'est pire que tout, là.
D'accord, okay, très bien. Donc, si je résume, les grands-parents, ils accueillent l'enfant à la maison. Ils font une petite surveillance glycémique avec le flash monitoring. Au moment des repas, pas toutes les 5 minutes.
Oui, absolument.
Conduite à tenir hypo, je resucre, c'est la glycémie inférieure à 70 ou 80 flash en bas.
Voilà.
Et hyper, à partir de 2,50 g, je vérifie la cétone. Et le dernier point, donc, favoriser l'épanouissement de l'enfant.
Bien sûr.
C'est ça. Et côté alimentaire, comment ça se passe ?
Alors, l'alimentation, bien sûr, il y a plein de grands-parents qui veulent faire plaisir à leurs petits-enfants, à juste titre. Il faut savoir qu'il y a des excès qui peuvent avoir lieu de temps en temps, mais ce n'est absolument pas grave, ça ne retentit pas sur l'équilibre annuel de l'enfant, il n'y a aucun problème. Simplement, il faut peut-être prévoir ces collations supplémentaires ou ces apports de sucre supplémentaires et anticiper une augmentation des doses d'insuline qu'on doit pouvoir injecter. Et tout ça se prépare, donc avec les parents en particulier, ou avec le médecin, ou nous, l'infirmière.
Et si on ne se prépare pas, est-ce que c'est si grave que ça ?
C'est absolument pas grave. À partir du moment où on a compris les mesures de sécurité, pas de souci.
Donc, en résumé, profiter du moment avec son petit-fils, sa petite-fille, et passer un bon moment en famille.
Exactement. Je tiens juste à rajouter une chose sur la nuit. Hors de question pour les grands-parents de se réveiller la nuit et de flasher toutes les deux minutes. C'est pas du tout la peine. Si l'enfant fait une hypo la nuit, il se réveillera et il manifestera son envie de se resucrer. Et à ce moment-là, s'il se réveille par contre de façon inopinée, on mesure la glycémie et on fait ce qu'il faut.
D'accord,
en général, s'il se réveille de façon inopinée, c'est une hypo. S'il se réveille, on le resucre et point.
D'accord, merci pour cette intervention. Je voudrais juste proposer aux grands-parents de ne pas hésiter à faire les petites questions, un petit quiz qui est sur le site,
pour s'exercer,
qui permet d'évaluer ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris, s'exercer et voir si d'autres questions voient le jour et se renseigner sur les différents podcasts.
Ok, merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.